Salut, ici Matt Track, vous écoutez CKUT 90,3 FM.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
So go on. Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Bonjour tout le monde. Bon matin. Mon nom est Nelson. Je suis en compagnie de mon cher acolyte Marc-André. Comment vas-tu, Marc-André?
Très bien. Et toi, Nelson? Bon matin.
Bon matin. Ben, je vais très bien. Merci de le demander. On commence encore avec du reggae comme la semaine dernière pour ceux qui étaient à l'écoute.
Exactement.
On aime se réchauffer par ces temps frisquets. Avec de la bonne musique du Sud.
Exact.
Et ça nous réchauffe le cœur, ça nous réchauffe l'esprit.
Et là, c'est un moment historique. Là. On met du Bad Brains, un de nos groupes favoris, enfin, finalement. Puis on vous met pas ça dans le tapis, parce que les Bad Brains, c'est comme les céréales, le mini-wheat. C'est un côté frosté, puis un côté plus relax. Et là, c'était le côté reggae, et un côté plus hardcore. Fait que là, on a commencé avec une toune. T'as-tu reconnu c'était qui?
Ça me disait quoi? Surtout en écoutant la ligne de basse en arrière-plan. Mais oui, donc c'était une chanson des Beatles. Donc la chanson Day Tripper.
Yeah.
Day Tripper / She's a Rainbow.
Exactly.
Mais là, par contre, je ne sais plus de quel album des Beatles ça vient exactement.
Non, moi non plus. Mais
peut-être Sgt. Pepper, mais je ne suis pas sûr.
Pas sûr.
Mais Bad Brains, un album live. C'est une version live qu'on vient d'écouter.
Exact.
Et c'était une version live qui était enregistrée dans quelle ville, sais-tu?
À Amsterdam, en Hollande.
Oh, wow!
Fait que les Bad Brains sont allés jusque-là pour enregistrer ce live-là, et ça sonne comme une tonne de briques. Et ils doivent venir fumer du bon. Connaissant les Bad Brains, c'est...
Ils en fument souvent, je pense.
Ouais, ils en fument souvent.
Pour ceux qui ne connaissent pas les Bad Brains, à la base, c'est un groupe de punk hardcore qui vient de Washington.
Ouais.
Mais qui est particulièrement... original ou différent, parce qu'il s'agit de quatre Afro-Américains,
oui.
Rastafari,
oui.
qui font du punk hardcore.
Exactement.
Et ils parsemaient de chansons reggae dans leurs différents albums.
Exactement.
Pour ceux qui ne connaissent pas, allez découvrir ça, parce que c'est vraiment génial.
Oui, puis regardez le chanteur, qui s'appelle HR, et c'est une bête de scène, et il peut faire des backflips sur stage. Regardez des lives des Bad Brains au CBGB, le fameux club où est-ce que tout a commencé. Et vous m'en redonnerez des nouvelles.
Il faut dire que c'est le HR des années 80 versus
ouais.
aujourd'hui, où est-ce qu'il doit avoir 60 quelques années.
Puis exactement. Mais il a recommencé à faire des shows.
Ouais.
Il a recommencé à faire des shows.
Ah, okay.
Et là, c'est pas avec les Bad Brains, c'est son groupe HR Human Rights. C'est plus reggae, dub, tout ça. Là.
Plus tranquille.
Ouais, c'est plus tranquille. Là. C'est un petit peu plus pépé, mais c'est encore bon. Quoi dire de Bad Brains? C'est une fratrie. Tu sais, ça revient tout le temps. Quand il y a une fratrie, on dirait que le groupe est meilleur. Non, je sais pas. Son frère est à la batterie. Son frère est à la batterie. Puis il y a Daryl Jennifer qui fait la bass, qui faisait la track, il faisait son Paul McCartney là-dessus. Et Dr. No à la guitare, qui est un génie. C'est des anciens musiciens de jazz.
Ah oui?
Ouais, jazz fusion. Puis une année, ils ont découvert le punk, les années 77 aux alentours, puis ils font partie de la première vague punk hardcore américain. Puis ils ont écouté les Ramones, Sex Pistols, tout ça. Ils sont de la même génération. Mais c'est, tu sais, moi je les appelle souvent, quand je poste une photo d'eux autres, je marque « The Originator ». C'est de là que part beaucoup de choses différentes. C'est comme, tu sais... Ah, il était différent, comme tu l'as dit, c'était des Afro-Américains. Il y avait des pensées différentes. Ils ont lu le livre de Napoléon, qui est le PMA, que dans l'hardcore, c'est très connu. C'est le Positive Mind Attitude.
Oui.
En tout cas, c'est comme une doctrine. Là. Vous irez explorer ça. Fait qu'il arrivait avec des choses différentes que les autres groupes faisaient pas à ce moment-là.
Oui, c'était pas nécessairement des... un groupe punk qui était plus dans la destruction ou plus dans la, tu sais, une énergie plus de, on rentre dans le tas puis on se défoule.
Ouais.
Ben, sur scène, j'imagine que oui, ça arrivait qu'ils se rentraient dans le tas, mais les paroles, c'était plus positif, c'était plus question de rendre les choses positives.
Exactement. Mais il y a un chaos à l'intérieur du groupe.
Pareil. Exactement.
Puis, si vous regardez les shows,
il
se passe tout le temps de quoi. Là. HR, ouais. C'est une bête de scène. C'est un des meilleurs frontman de ce style de musique-là et même de tous les styles confondus, d'après moi. Mais on pourra y revenir. Fait que c'est Bad Brain live. The Youth Are Getting Restless. Bad Brains Amsterdam. Et là, en parlant de Youth Are Getting Restless, on commence en force avec une bande dessinée. On va avoir beaucoup de musique assez dans le tapis. On a commencé reggae, mais peut-être on a trop fait jouer de reggae l'autre fois. Là on va mettre de la distorsion un peu là, plus si on va arriver.
On va vous réveiller ce matin.
On va vous réveiller, c'est promis. Et là, j'ai une superbe bande dessinée, Un été cruel, écrit par Ed Brubaker et Sean Phillips. C'est un tandem américain. C'est une traduction que j'ai entre les mains. Et c'est comme un hors-série d'une série que je n'ai pas lue, qui s'appelle Criminals. Mais je ne savais pas que ça faisait partie de Criminals. C'est comme un prequel, une histoire à part même qui se passe avant. Mais moi, j'avais lu une autre série que ce tandem-là avait fait. Ils sont sur Image, une maison d'édition, et c'est en France, c'est Delco, et ça s'appelait Kill or Be Killed. C'était un quatre tomes.
OK, oui, j'avoue que le mot pour quatre...
on n'est pas sûr.
Un quadra quelque chose.
Un quadra, oui. Fait que Kill or Be Killed, que j'avais beaucoup aimé, et là, j'avais vu ça, un été cruel, et c'est un one-shot, ça veut dire que c'est juste une histoire, mais qui fait partie d'un univers qui s'appelle Criminals. Et... En gros, c'est en 1988, au cours de l'été, Teg Lawless revient chez lui afin de planifier le plus gros braquage de sa carrière. Mais le fils de Teg, Ricky, s'engage avec ses amis sur le même chemin sombre que son père.
Oh.
Tout se met alors en place pour que cet été devienne le pire de toute leur vie.
OK.
Et c'est là qu'on dit que c'est un récit situé dans l'univers de Criminals.
Eh bien, donc un univers criminel.
Criminel, encore.
De père en fils.
De père en fils. C'est une... je m'en dis une fratrie, c'est pas une fratrie, c'est une... c'est quoi?
Une famille.
Une famille, oui, mais quand tu dis père et... Tu sais, père en fils, une... En tout cas...
Paternel.
Paternel.
Papa.
Papa, maman, a raison, non, c'est papa. Fait que c'est ça, fait que je me sors pas des romans graphiques, on va dire, série noire... criminalité, tout ça. Il y en a beaucoup qui se publient. J'en ai lu dernièrement des très moyens, mais ça, j'avoue que ça pique ma curiosité d'aller lire l'univers de Criminal. Fait que ça, c'est ma première recommandation qui est très décapante.
Donc, Un été cruel.
Exactement.
Est le titre du livre. Et juste la page couverture est assez inspirante parce que c'est un... On a un personnage qui nous regarde droit dans les yeux,
ouais,
avec une cigarette à la bouche, avec une attitude, les cheveux un peu hirsutes. Puis
c'est le fils du criminel. Il y a un petit côté punk. Ça se passe dans les années, comme, qu'est-ce que j'ai dit, 88, je pense, mais c'est assez intemporel et tout ça. Le dessin il est assez. Les couleurs sont assez. Tu sais, quand c'est la nuit, c'est mauve, bleu, puis quand c'est le jour, des fois, il y a des rouges, des jaunes, des ocres. C'est assez bien fait, assez réaliste quand même.
Les couleurs me donnent l'impression que ça aurait été fait à l'aquarelle. C'est sûrement pas ça. Là. Mais
ouais,
c'est comme des couleurs qui dépassent les formes.
Oui, oui, oui. C'est voulu, oui.
Oui, c'est ça. Comme si c'était un peu...
Un petit côté vintage, hein? Un petit peu,
ouais.
Pas Pulp Fiction, mais les romans pulp là, criminels des années 60. Là. Il y a un petit côté vintage qui est très intéressant.
OK, cool, merci.
Et là, on va aller faire un tour. Ça va être une émission radio-musique, je pense. On va mettre bien de la musique. On va avoir du Collectivo, qui est un groupe local, qui ont plusieurs albums de parus. On ne sait pas s'ils sont en sabbatique ou quoi. On a Canaille, qui est un autre groupe made in Québec. On a les Misfits. C'est là que je vous disais qu'on allait mettre du crunch un peu. On va mettre un petit peu... je vais vous expliquer qui sont les Misfits. Vous savez probablement c'est qui. Et un autre groupe local, Cayman and the 45.
Donc, beaucoup d'artistes locaux cette semaine.
Oui. À part peut-être les Misfits ou les Bad Brains.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et on va avoir... je vais vous parler d'un film et d'un livre jeunesse. Et également un magazine Juxtapose, pas les plus récents, parce
ouais,
qu'il m'intéresse un peu moins, mais je suis allé fouiller dans mes vieilles choses et ça va faire un lien avec les Misfits.
Oh, on a hâte d'écouter ça.
On a hâte d'écouter ça.
Mais avant d'aller voir Juxtapose et les Misfits,
ouais,
on écoute une pièce de... Collectivo, grand groupe montréalais. C'est parti. Quand tu es prêt, Marc-André, appuie sur le piton.
Desde el norte frío, con una bola de amigos, nos fuimos a calentar, todo el invierno a cantar, todo el invierno a bailar. ¡Ay, qué banda loca, qué bus de locos! ¡Ay, qué banda loca, qué bus de locos! Me subí en un bus, no sabía dónde iba, pero lo sentía que me iba. Llegando a la playa, tomando unas chelitas, cantando con los locales, toda la noche a tomar, toda la noche a fumar. ¡Ay, qué banda loca, qué dulce loco! ¡Ay, qué banda loca, qué dulce loco!
Tira, empuja, dale, dale a chucha, échale las ganas, olvídalo de más. Tira, empuja, dale, dale a chucha, échale las ganas, olvida lo demás.
Mira adelante, no mires atrás, sigue la luz, súbete al bus. Mira adelante, no mires atrás, sigue la luz. Me subí en un bus, no sabía dónde ir. La fiesta andaba y grande la pachanga, subiendo la marea nos lleva toda la banda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué banda loca, qué bus de locos! ¡Ay, qué banda loca, qué bus de locos!
Tira, empuja, dale, dale a chucha, échale las ganas, olvida lo demás. Tira, empuja, dale, dale a chucha, échale las ganas, olvida lo demás.
Mira adelante, no mires atrás, sigue la luz, súbete al bus. Mira adelante, no mires atrás, sigue la luz.
Échale las ganas, olvida lo demás. Mira adelante, no mires atrás, sigue la luz, súbete al bus, súbete al bus, súbete al bus.
Vous écoutez Le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'était une pièce du groupe Collectivo qu'on vient d'écouter. Et c'était la chanson qui s'appelle El Bus.
El Bus.
Le bus.
Le bus.
En bon espagnol.
À Québec, on dirait, tu es allé à Québec, c'est la autobus.
Le bus et non le bus.
Mais eux autres, ils disent la bus.
La bus.
Puis l'autobus.
C'est vrai.
Donc on dit.
À Montréal, on dit le bus.
Le bus.
Donc, Collectivo, grand groupe, comme le nom, un collectif de plusieurs membres, plusieurs musiciens, de plusieurs groupes montréalais qui a eu beaucoup de succès dans les années 2000. Ce qu'on vient d'écouter, c'était l'album...
C'est le deuxième, c'est Espécial.
Espécial, paru en 2005. Et toi et moi, on a vu Collectivo maintes et maintes fois en spectacle dans les différents festivals et autres spectacles extérieurs, des fois intérieurs aussi, là, pas juste à l'extérieur. Qui est un collectif de plusieurs musiciens, de plusieurs groupes, dont la chanteuse Chantal Arroyo.
Joue dans Overbass. Puis j'ai su dernièrement, tout le monde pensait que c'est elle qui chantait dans Capitalist Alienation, mais ce n'était pas elle.
Dans quoi?
Capitalist Alienation.
Qui est un groupe...
L'aliénation du capitalisme.
Oui, qui est un groupe...
Un vieux groupe punk. Qui ont paru un album, un vinyle, et qui a eu une réédition dernièrement avec une pochette différente qui a été faite par Michel Ewe Langevin de Voivode. Et la pochette était classique dans les années 88 ou 90, whatever, quand moi j'ai connu ça. Le monde la dessinait souvent, cette pochette-là. C'était un gros bol de toilette avec une grosse main qui s'en allait comme peser sur le flush.
Ouais.
Et dans le trou du bol de toilette, t'avais les ministres, les chefs de guerre, le monde des religions, puis ça en allait tout flusher ça. Ça s'appelle Capitalist Alienation. Bon déjeuner, tout le monde. C'était la seule partie politique que vous allez jamais entendre du show d'aujourd'hui.
En même temps, c'est pas nous qui avons dessiné ça.
Non, c'est pas nous. La pochette était vraiment cool. Là, ils ont sorti le disque. En tout cas, j'ai entendu des anecdotes dernièrement là-dessus, très drôles, de sources fiables. Et c'est ressorti, et c'est avec aussi Joël qui joue de la basse dans Collectivo, qui jouait dans Capitalist Alienation.
Ah, voilà.
C'est ça le lien.
Okay.
Là, il y a Don't Mount, pendant que la tune chantait, tu me demandais si la voix masculine qu'on entendait, qui est R.L. Black, joue également dans Paradise, qui est le frontman ou le nouveau frontman du groupe Paradise qu'on a eu en invité Frank Kelly, le leader du groupe, dernièrement.
Okay. Oui.
Qu'on salue, qu'on a bien apprécié sa présence.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Blackie qui est dans les deux groupes.
Qui est dans les deux groupes. Et là, dans les mains, regarde qu'est-ce que j'ai. Je m'en rappelais pas. Tu vois-tu, c'est quoi?
C'est un sous-verre en carton.
En carton.
De Collectivo.
Et oui, c'est la microbrasserie Le Grimoire avait sorti une bière. Et j'avais eu un petit coaster, un petit sous-verre pour l'apparition de S Spécial.
Ah, OK. Sur il n'y avait pas de bière de microbrasserie.
Non, à l'intérieur du CD, il fallait que tu gonfles la bouteille et le liquide apparaissait et tu pouvais le boire.
Oh, bien.
C'était super conceptuel.
Micro-micro.
Micro-micro. Et je parle dans un micro, MIC. Sur cet album-là, qui est excellent, c'est leur deuxième. Si je ne me trompe pas, ils en ont trois. Il y a l'éponyme, il y a S Spécial. Puis il y en a Tropical Trash et le dernier qui est jaune électrique. J'essaie de chercher le flyer. Si tu le vois, en tout cas, c'est le poster qui est là-bas. Je pense que c'est jaune électrique. Ou juste électrique. Ça se peut-tu?
Jaune électrique.
Ouais. C'est le quatrième, c'est le dernier.
Avec un K.
Avec un K. Et là-dessus, il y a un lien avec la Mano Negra, Manu Chao pour Supuesto.
Ouais.
Fermín Muguruza, un Basque. Qui joue dans un sound system, qui est ami de Collectivo et qui est ami de Manu Chao. Et c'est lui qui est assistant producteur et réalisateur sur cet album-là.
OK.
Avec d'autres personnes là, du Québec. Chantal Arroyo, qui est chanteuse et qui est sur son label qui s'appelle Discos del Toro.
Oui.
Les disques du taureau.
Donc, beaucoup de collaborations. Puis, c'est un groupe qui a marqué la scène locale bien amplement dans ces années-là.
Oui, puis moi, ça comblait un besoin que j'avais, qu'il n'y avait pas au Québec. Tu sais, j'écoutais Todos Tos Muertos, Sos Fabulosos Cadillacs, on prend une trolley. Mais ce genre de band qui est comme beaucoup sur stage, tu sais, sont avec des percussions, drummers, des trompettes, tout ça. Un peu des fils descendants de la Mano Negra et de tous ces groupes-là. Et au Québec, on en avait très peu. Et eux, je trouve qu'ils ont bien rempli ce mandat-là de fête reggae.
Musique du monde.
Musique du monde, métissée et compagnie.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que écoutez du Collectivo, c'est toujours le fun. C'était El Bus. Et là, on va tomber dans la littérature jeunesse. On a lu ça ce matin, ma fille et moi.
Ah oui?
Ça s'appelle, les auteurs, c'est David Goudreau et France Cormier. Et ça s'appelle « La réparation de mes parents ». Et je n'avais pas remarqué sur la couverture, c'est ma fille qui me l'a fait découvrir, que les deux personnages principaux, les deux jeunes enfants, partent avec le S. Fait que ça aurait été fait « La séparation de mes parents ». Mais c'est la réparation de mes parents.
Ah, c'est joli. David Goudreau, non, je me trompe, c'est pas le slammer qui s'appelle.
Ah, ouais.
David. Comment il s'appelle dans le jeu blanc?
Je sais pas. Non, je penserais pas, mais, okay. Mais ça se peut. Tout est possible maintenant. La prémisse, c'est la suivante, c'est « Mes parents sont séparés et réparés. Il a fallu du temps et beaucoup d'aide de mon poisson bleu. » Comment il s'appelait le poisson bleu? Gros bêta. C'était un bêta 5, je crois. Un poisson bleu là, qui est tout seul dans son bocal. Mais maintenant, ils vont mieux. et mon poisson est beaucoup plus relax. » Et là, tu te dis pourquoi Marc-André parle de littérature jeunesse.
Oui.
Bien, toi et moi, on partage beaucoup d'affaires ensemble, mais on a passé à travers d'un divorce.
Oui.
Et la séparation des parents peut affecter nos enfants, nos moyens enfants.
C'est clair.
Et tout ça.
Ouais.
Fait que c'est très sympathique. Si vous avez des jeunes enfants, si vous êtes dans cette situation-là, ça se lit. C'est un livre pour enfants.
Okay.
Mais c'est très sympathique, très agréable, très rapide à lire surtout. Des grandes illustrations. C'est un grand format. Et il y a comme un poisson bêta qui commente à ce que font face cette famille-là, dont la séparation, comment on l'annonce aux enfants. Et même une scène que c'est les parents qui consultent une médiatrice.
OK. Donc, le témoin dans toute l'histoire, c'est le petit poisson.
Le petit poisson.
Qui est comme un figurant, mais qui en font, qui est lui qui témoigne, qui raconte l'histoire en quelque sorte.
Exactement. Fait que c'est pour faire changement.
Puis quand je regarde ça, ben en fait, ouais. David Goudreau, si je ne me trompe pas, c'est vraiment lui, le fameux slammer poète québécois.
Ouais.
Puis ben quand je regarde les illustrations, c'est vraiment une grande image par page.
Ouais.
Puis donc, ça pourrait s'adresser à un très jeune public aussi, j'ai l'impression.
Oh, oui, quand même.
Donc, pour les parents qui veulent raconter une histoire avant de se coucher.
Exactement.
Ou plus jeune, ben c'est pas très long.
Non.
C'est vraiment des grandes illustrations, peu de texte. Et c'est j'ai l'impression que c'est même pas une bande dessinée pour moi. Ça rentre plus dans la catégorie livre jeunesse, livre pour enfants, conte pour enfants.
Oui, on me souffle à l'oreille, roman graphique. Toi, tu parlais d'une bande dessinée. Moi, c'est un livre illustré. C'est un livre illustré avec du texte, tout simplement. Mais c'est considéré littérature jeunesse. Mais ça s'adresse aux jeunes. Mais comme je vous dis, si vous avez des jeunes bambins, l'histoire est intéressante. Même si vous êtes encore ensemble, je veux dire, c'est des réalités que peut-être vos enfants vivent avec leurs camarades de classe. Fait que moi, j'ai trouvé ça super sympa. Le poisson qui est comme le narrateur extérieur. Là, tu regardes une image, c'est comme le punch. Fait que je vais pas le dévoiler.
Non,
mais c'est vraiment bien. Puis c'est québécois. Fait que David Goudreau et France Cormier, La réparation de mes parents.
Excellent. On va regarder ça.
Et là, on va retourner. On dirait qu'on a tout le temps. On approche de la pause.
Ouais, il nous reste une minute avant la pause.
On est mieux d'aller en pause?
Ou on peut aller en pause maintenant, si tu préfères, pour ne pas commencer un sujet chaud.
On
a plus de temps pour en parler après la pause, si tu préfères.
OK, parfait. Bon, on va aller en pause et on vous revient sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Vous écoutez le lendemain de la veille.
Venez prêter main forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur? Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Parle-moi encore, parle-moi, c'est la
Vous écoutez Le Lendemain de la Veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'était une chanson du groupe Canaille. Et pour les auditeurs qui ont l'oreille plus fine, vous avez peut-être observé puis entendre une autre voix supplémentaire qui est ajoutée sur la pièce musicale de Canaille. Marc-André, qu'est-ce qui s'est passé là?
Je sais pas si on avait déjà fait, c'est du lip-sync, pas du lip-sync, du
karaoke
live,
en direct. Mais avec la voix originale et la voix ajoutée de... Est-ce qu'on peut nommer la personne qui a chanté par-dessus la dernière chanson de Canaille?
Ben oui, elle peut se présenter elle-même. Non,
elle ne veut pas. Elle est trop gênée.
Ses bottes, elle part.
Elle aime chanter, mais elle pas, chanter, se, elle mais elle pas se présenter.
Pas, elle veut pas les applaudissements du public. Ben c'est ça, c'est AIM, a.k.a. Mia, Missing in Action, qui aime Canaille depuis qu'il est très jeune, qui les adore, elle me donne un hug, on la salue, on la remercie.
Elle merci quitte le studio. Présente. Merci, AIM, pour cette prestation en direct.
Et oui, et attention au fil, et bonne soirée,
bonne journée. Bye-bye. C'était quelle chanson de Canaille exactement?
Oui, c'était Parle-moi, de l'album Manger du bois.
Donc, Canaille, excellent groupe québécois, oui, effectivement, qui n'existe plus ou peut-être qui existe encore, c'est plus ou moins clair, mais exactement. Qui s'est ressuscité dans un autre groupe qui a beaucoup de succès depuis peut-être un an ou deux, là, qui est Bon Enfant.
Oui, la chanteuse principale.
Qui a un style musical un peu différent.
Exact.
Qui sont plus maintenant dans le rock style rétro 70s.
C'est psychédélique un peu.
Oui, ouais, c'est très bon, Bon Enfant.
Oui, ouais. Mais c'est différent.
Oui, c'est pas tout à fait le même style musical.
Oui, ben c'est ça. C'est malheureusement une chronique nécrologique. Moi, ça me fait tout le temps un peu de la peine quand un band québécois arrête pour X, Y raisons. J'imagine ça que le COVID, on va en perdre plusieurs groupes. C'est pas évident pendant deux ans de ne pas faire de show.
Mais en même temps, il y a aussi. C'est peut-être l'occasion de partir.
Des nouveaux projets.
Des nouveaux projets.
Exactement.
Exactement.
Bien dit.
On est tous
Phoenix.
On est tous enfermés dans nos sous-sols, puis ben là, les artistes, les musiciens, ben ils s'en prennent pour créer des nouveaux projets. Puis peut-être que Bon Enfant a été créé comme ça, sûrement pas. Je pense que ça existait avant le COVID.
Oui, ça mais, se peut. Mais ils ont le vent des voiles. Mais pour revenir à Canaille, il y a trois albums. Fait que je vous invite à vous les procurer. Je vais revenir là-dessus, j'y trouve pas, j'en ai juste un dans les mains, c'est ça, j'ai mangé du bois, c'est un petit lapin qui, la pochette est sympathique, qui est dessiné ou crayonné, qui, on dirait qu'il fume, il fume une garette, comme dirait un jeune enfant, une cigarette. Et là, en parlant de jeunesse et de, tu sais, des fois, le problème avec les ados, avec nos enfants, tout ça, ben il y a un film qui répond à tous ces besoins-là.
Ah oui?
Non, c'est une comédie, c'est pas
OK.
C'est une comédie. Je t'ai bien eu pour un instant, j'ai vu dans ton regard. Ah oui? Tu pensais que j'avais la solution à tous nos problèmes. Ça s'appelle Days of the Bagnall Summer. C'est basé sur un roman graphique, fait que sur une bande dessinée. Ils ont décidé, à partir du succès d'une bande dessinée, d'un roman graphique, fait par Geoff Winterhart, de faire ce petit comédie relationnelle, sociale, entre une mère monoparentale et son adolescent d'une quinzaine d'années.
OK.
Et là, en gros, l'histoire, c'est que, bon, la mère et le fils, l'école finit, et le fils attend l'appel de son père qui est séparé. C'est un couple séparé.
OK.
C'est une mère monoparentale. Et le père a une nouvelle vie familiale, attend un nouveau bébé et demeure en Floride. Mais eux, ils demeurent en Angleterre.
Oh!
Fait que le fils, pour les vacances d'été, attend que son père l'appelle pour prendre l'avion et s'en aller en Floride.
Okay.
Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Fait que le fils est déçu. La mère aussi, elle avait d'autres plans. Fait que ça bouleverse un peu leur dynamique, si tu veux.
Oui.
Et c'est toute cette relation mère-fils, ou ça pourrait être mère-fille, peu importe, quand que tu sais un parent, un enfant, ou tu sais quand il y a le nuage du divorce et
ouais.
Tout ça. Fait que c'est super, c'est British. Fait qu'au début, faut que tu te syntonises l'oreille à l'humour, ben premièrement à l'anglais British,
c'est ouais,
que des fois il y a des expressions. Et également sur, tu sais, ça n'a aucun rapport, là, mais tu sais, moi, quand je pense à un mot british, je pense au Monty Python.
Ouais.
Tu sais, une espèce du monde décalé, satirique.
Pince sans rire.
Mais tu sais qu'on n'est pas... C'est pas évident au début là, d'embarquer dans ce genre de,
ouais.
de d'ambiance, mais c'est vraiment un film fort sympathique. Et le garçon, c'est un poil. C'est un rocker, c'est un metalhead.
OK.
Fait qu'il a les cheveux longs, plus ou moins propres, sa pochette. Et il y a des gros chandails de band extrême métal.
Okay.
En Angleterre, il y en a beaucoup. Tu sais, les Napalm Dead viennent de là. Et là, fait que c'est ça, c'est comme, cette relation-là, cette dynamique-là. Naturellement, que la mère doit pas, tu sais, qui apprécie pas nécessairement que son jeune garçon écoute, la manière qui est vêtu, tu sais, tout en noir, mais avec les jeans longs, les cheveux longs.
Il sort pas souvent de la maison. Il
fait
pas d'activité physique.
Exactement.
On connaît ça.
On nomme-tu des noms? Mais non. Mais là, en plus de ça, il a un rêve, une passion. Il tripe sa musique, c'est un tripeux de musique.
Okay.
Il veut jouer dans un groupe. Il veut former sa propre formation.
Okay.
Fait qu'il y a cette quête-là aussi à travers l'histoire. Et sa mère, de l'autre côté, vu qu'il va rester à la maison tout l'été, il propose plein de choses qu'il refuse plus ou moins poliment, dont se trouver un summer job. Une première job d'été.
Exactement. Pas évident, ça.
Pas évident.
Ouais. Surtout quand tu es habitué à rien faire.
Exactement.
Dans ton sol, à écouter de la musique ou à jouer de la musique.
Exactement. Puis jouer à des jeux avec ton meilleur ami, des jeux vidéo. Ouais. Exactement. Fait que c'est sympathique, là. C'est pas une très grande comédie, c'est quand même petit budget. Mais moi, je l'ai écouté avec ma fille qui est pré-ado-ado, puis ça a été sympathique. Ça pose une couple de questions. La musique dans le film est sympathique. J'ai pas trop su c'était qui. Mais il y a de la musique originale, par contre, du groupe Belle et Sébastien, qui est vraiment Belle et Sébastien, mais qui est vraiment pas du métal. Là,
non, pas du tout.
Mais il y a quand même pas
plus
juste
du
métal dans
l'émission.
Ouais.
Je pense que c'est du folk, hein? Je suis pas sûr.
Ben, c'est plus... pas d'ambiance. Ouais, je sais pas. Mais pour le film, c'est plus la musique d'ambiance. Là. C'est pas des hits, là. C'est pas des tunes de 2-3 minutes. C'est pas... Ouais, exactement. Fait que c'est quand même une belle... c'est un petit film sympathique. Là. Les deux comédiens, moi, je ne les connaissais pas du tout. Si vous êtes familier peut-être avec le ciné mob british, vous allez peut-être connaître ça. Fait que ça s'appelle Days of the Bagnol Summer. Et c'est tout récent.
Est-ce que, juste une question comme ça, oui, Bagnol Summer, ça veut dire quoi?
Ben c'est ça, on se disait la même chose, c'est le nom de famille que porte la mère monoparentale et son fils.
Ah, je vois.
Ouais.
Donc c'est leur nom.
Oui, exactement.
Excellent, excellente suggestion. Je vais certainement l'écouter, puis même l'écouter avec mon garçon de 13 ans aussi.
Ouais. Il commence à avoir les cheveux longs, puis il joue de la air guitar?
Non, lui, il est clairement dans les jeux vidéo.
Ah, jeux vidéo, ouais.
Mais pas dans la musique tant que ça.
OK.
Pour l'instant. Ouais.
Tout peut changer à tout moment.
Ouais, c'est
tout bouge et tout fout le camp. Et là, moi, ça m'a fait penser, quand j'étais jeune, j'avais des passions, comme tu peux voir ici, les posters, collectionner toutes les moindres cochonneries inimaginables. Je suis un gros collectionneur de choses. Et j'avais beaucoup aimé un magazine qui est toujours existant, mais qui était meilleur à ses débuts, qui s'appelle Juxtapose, un magazine californien d'art et culture, Art and Culture Magazine. Et là, dans les années 2005, il avait fait un Spring Special. À ce moment-là, il sortait un magazine par mois.
Okay.
Puis j'étais pas abonné, il fallait y aller au dépanneur ou à Tabagie chercher le magazine, puis il y avait des fois 2-3 copies. Fait que c'est le premier arrivé, le premier servi. Et celui-là, j'étais très content de l'avoir parce que c'était un special black and white issue.
Oh.
Ça veut dire que c'est tous des dessinateurs, des créateurs qui font du noir et blanc.
Oui.
Et là, qui dit noir et blanc, qui dit métal, c'est ça mon lien, c'est que c'est beaucoup des artistes qui ont fait des pochettes de groupes punk, métal, etc. en noir et blanc.
OK.
Et là, on a la crème de la crème. On a un certain Raymond Petitbon qui est son nom d'emprunt. C'est un gars qui étudie à UCLA en économie et qui a tout lâché et qui a dessiné pour des groupes et qui a fait un logo d'un groupe. J'essaie de chercher le logo. Je sais qu'il dit ça quelque part. Quatre barres noires. Ça te dit-tu quelque chose?
Quatre lignes noires.
Noires, exactement.
Il fallait y penser. Mais oui, ça me dit quelque chose. C'est le groupe Black Flag.
Exactement. 100% champion. C'est exactement ça. Il a fait les pochettes de Goo, de Sonic Youth. Vraiment un style noir et blanc. Il y a un article sur lui. On le voit pas, mais on voit pas mal de pochettes importantes qu'il a faites.
Okay.
Et sur la page couverture, un gars qui a dessiné pour un petit groupe, le drummer, c'est un Danois. Mais ils ont bien pogné aux États-Unis. Lars Ulrich et les Metallica.
Ben oui, Metallica.
Et leur dessinateur, pas celui qui fait leur pochette, celui qui a fait bien des t-shirts, bien du merch, bien toutes les affaires à côté, on va dire.
Ouais.
Il aurait dû le prendre pour faire les pochettes, d'ailleurs.
Bien, souvent, les œuvres qui sont à côté pour la merch, c'est un peu plus violent, un peu plus gore.
Exactement.
Que les pochettes elles-mêmes.
Exactement. Fait que là, c'était Mr. Pochette qui dessine noir et blanc, qui a
Monsieur
joué dans...
Monsieur Pochette qui faisait pas les pochettes.
Exactement.
Qui faisait les t-shirts de Metallica.
Tout. Ça ne prend un bruit de cymbales maintenant.
Bon, non, c'est, mesdames et messieurs,
c'est une bonne joke. C'est un bon point. Ce gars-là, c'est ça, les t-shirts, name it. Et là, il jouait même dans un groupe punk hardcore qui s'appelait Septic Debt. Fait que je peux-tu te dire que le groupe, ce que je me rappelle, j'avais un bootleg d'eux autres, c'était correct, c'était pas grosse affaire.
Ouais.
Le côté visuel, il était sa coche.
OK.
Le côté visuel, là, il dépassait les attentes musicales.
Plus que la musique.
Ouais. Et là, si je rouvre la bande dessinée, le magazine, juxtapose, et je tombe sur une image qui s'appelait The Career Corner. Fait que ça disait si t'étais un professional artist or a lazy daydreamer. Fait que là, ce que tu faisais, c'est que tu avais une feuille. Il fallait que tu reproduises au crayon de chez toi, là, en noir et blanc, à l'encre si tu veux, une silhouette d'un pirate ou qui est cartoonish, et la silhouette d'un petit une petite tortue avec une casquette et un col roulé.
Okay.
Et là, c'était ça. Si tu dessinais ça, tu envoyais ça à une adresse, un P.O. Box à quelque part aux États-Unis. Il te renvoyait une espèce de lettre, un accusé de réception. Il disait... Si t'étais un lazy daydreamer, en voulant dire si t'as pas de talent, puis continue à dessiner, mais tu te rendras pas loin. Ou si t'étais un artiste.
OK.
Et là, et moi, j'avais déjà vu ça dans un magazine. Et là, je pense à des Mad Comics qui avaient ça. Et là, il y a un dessinateur qui s'appelle Mike Soffin, qui a fait son propre pirate, mais qui est tout en décomposition. Il est vraiment... Excusez l'expression, là, il est badass. Fait que ça donne un peu le ton du magazine à l'époque et des dessins. Et là, je feuillette et là, on voit tout. Je vais te montrer après, tu vas avoir un ecstasy.
Ouais.
C'est des dessins noirs et blancs de Mr. Pochette. C'est vraiment, vraiment, vraiment tight.
Très détaillé.
Très
hyper détaillé.
Exactement. Beaucoup de squelettes, beaucoup de dents. Name it.
Des personnages, des visages de squelettes avec vraiment beaucoup de détails dans les cheveux, dans les yeux. Donc, c'est hyper, hyper travaillé.
Exactement. Il y avait le monsieur Petitbon qu'on disait qui avait fait Black Flag. Et là, je fais un callback. J'aime ça dire le mot callback. Tu te rappelles, j'avais parlé de Charles Byrne.
Jadis Naguère
aujourd'hui
ou
non
il y a plusieurs semaines.
Il y a plusieurs semaines. C'est celui qui avait dessiné Black Hole. Et là, ces bandes dessinées-là que moi j'ai lues en français traduites, ça faisait comme une espèce de grosse brique qui avait pris 10 ans. Et là, c'était pas mal d'un dernier. C'était le tome numéro 12. C'était des petits comics en noir et blanc. Fait que là, il y avait une critique, leur page qui s'appelle Reviews, sur des gens qui dessinent en noir et blanc, vu que la thématique du magazine était noir et blanc. Et il parlait de Charles Byrne qui est son dessin noir et blanc sur la coche.
Là, je me souviens. Maintenant que tu parles de Charles Byrne, je me souviens d'une bande dessinée que tu as parlé à l'émission il y a quelque temps.
Exact.
Et qui faisait référence. Charles Byrne était, semble-t-il, l'inspiration du personnage de Mr. Burns dans les Simpsons.
Tu as tout compris.
Parce qu'il a côtoyé Matt Groening, qui était le créateur des Simpsons.
Exactement. Je pense qu'on est allé à la même école de, d'art graphique et tout ça.
Je vois, je vois.
Fait que juste la pause, Cool Magazine, qui a perdu, on va dire, pas des plumes, mais il est rendu 4 fois par année. Et c'est plus... Tu sais, dans ce temps-là, c'était du art culture. Tu sais, c'est du costume culture.
Ouais.
Tu sais, Big Daddy Roth, Rat Fink, les têtes de mort, les monsters, toutes les affaires vintage, les tikis. Là, ça, là, c'est de l'art, des installations, tout ça. Le magazine, il a changé de format. Moi, ça vient moins me chercher. Mais quand je retombe en enfance, puis je vois les vieux magazines, j'ai comme un « oh yeah, ça existait ». Malheureusement, il n'y a personne qui a rempli ce créneau-là, malheureusement.
Okay.
Peut-être au Québec, il y a eu ben, la revue de Sans Issue, qui est quand même très cool, là, qui a un côté plus rock and roll. Mais à part de ça, pas vraiment. Et là, il y a une dernière petite anecdote sur le magazine. Allez vous en procurer un. Essayez de trouver des vieilles copies. Vous allez avoir bien du fun. Et je ne sais pas si je te dis, le fondateur s'appelle Robert Williams. Si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui a fait la pochette d'Appetite for Destruction de Guns N' Roses, l'intérieur.
OK.
Celle qui est censurée. Et ce fondateur-là du magazine, cofondateur, à chaque fois qu'il faisait une exposition ou qu'il assistait à des expositions dans le coin de San Francisco, la Californie, il y avait tout le temps des vedettes qui venaient puis allaient acheter des toiles. Et là, si je te montre la photo, est-ce que tu reconnais ce beau mec-là?
Un beau monsieur avec une belle chevelure noire.
Luxuriante noire et des sideburns favoris.
Ben, je me souviens très bien parce que c'est un acteur qui a joué dans une télésérie qui a été rééditée sur Netflix,
oui.
Full House. Et
oui.
Et c'était l'oncle qui jouait de la musique et qui était joué par John Stamos.
Bravo, 100%. Il ne regarde pas, il est loin, fait qu'il ne peut pas voir qui était écrit. Il jouait Uncle Jesse.
Uncle Jesse.
Qu'on trouvait vraiment cool quand
oui,
on écoutait
vrai.
Cette émission-là.
Ben, il vivait dans le sous-sol de la maison. C'est étrange un peu, mais bon. Il vivait dans le sous-sol, puis il y avait comme son studio de musique en bas.
Ouais.
Puis je me souviens surtout d'un épisode. Moi, j'écoutais ça quand j'étais tout petit. Hein. On écoutait ça, je pense, après l'école. Et je me souviens surtout d'un épisode où il y avait Little Richard.
No way.
Dans l'émission.
T'es-tu sérieux?
Ben, je suis très sérieux.
Okay,
le vrai Little Richard était invité dans l'émission.
Okay.
Puis là, t'avais John Stamos avec ses musiciens. Puis les petites filles qui étaient là, comme « Ah, wow, c'est un show live dans le sous-sol. » Puis t'avais Little Richard qui était là.
No
c'est
way.
Quand même extraordinaire, ça.
Totalement.
Puis il y a eu d'autres apparitions d'autres musiciens aussi dans l'émission. Mais bon, c'est comme familial.
Ouais.
Des années 80.
Ouais, puis c'est bon, ça transmet le flambeau. Tu transmets le flambeau à tes enfants en écoutant ça, puis tu dis, regardez,
c'est vrai.
C'est une légende du rock and roll, c'est Mr. Rock and Roll himself.
Ce qui est arrivé sur Netflix, ils ont refait une nouvelle édition avec les petites filles qui sont devenues des mamans maintenant. Donc c'est les trois mères qui vivent dans la maison. À l'époque, c'était les trois
hommes.
Ben, c'était un papa et deux oncles.
Ouais.
Maintenant, c'est les trois femmes qui vivent avec les enfants dans la maison. Donc on a pu réécouter les nouveaux et la première édition des années 80 en même temps.
Ah, OK. Fait que vous bingez en famille avec je ne sais pas combien de saisons. Okay. Mais là, je l'ai vu, mais les Olsen ne sont pas dedans, les nouveaux. Hein.
Les jumelles Olsen, effectivement, ne sont pas dedans.
C'est bizarre, par exemple.
Oui.
Ça a été drôle.
C'est...
Ou ils vont sûrement faire un caméo, j'imagine.
Ouais. Je pense qu'ils ont apparu peut-être dans le premier épisode.
OK.
Puis ils expliquent qu'ils sont plus là parce qu'ils sont ailleurs, ils vivent ailleurs.
Okay.
Donc, ils sont comme pas dans la série.
OK, ils sont pas dans l'univers.
Non.
Mais qu'est-ce qui est drôle, la musique est encore présente parce que les filles, je sais pas si la nouvelle les mères
ouais.
ou l'autre génération, il y a encore le concept de « on jamme
oui.
dans le sous-sol ».
C'est vrai.
Ouais.
Il y a une des mères qui est Stéphanie, sauf erreur, qui est une DJ pour son travail.
Okay.
Et qui donc là va voir des concerts de... Donc oui, dans la nouvelle série Full House, il y a encore un membre de la famille qui est dans le monde de la musique.
My God. OK, comment... Là, je pensais jamais qu'on s'en allait.
Mais là,
parler de Full House le matin. Non, mais c'est vrai, je t'ai montré une photo de Uncle Jesse.
John Stamos dans Juxtapose.
Oui, il est dans Juxtapose parce que bon, il doit faire partie du gratin qui collectionne là-bas les œuvres d'art. Puis il était à l'exposition de Mr. Robert Williams. Qui est le grand Manitou de Juxtapose à ce moment-là. Et là, le temps, est-ce qu'il file avec... Hey, je pensais pas qu'on s'en allait là-dedans. Oh, 50 minutes, OK. Ben là, je sais pas comment faire le lien. Laisse-moi placer la...
Il n'y a pas de lien à faire. On n'est pas toujours obligé d'avoir des liens dans tout. Hein?
Ben, il y avait des comics dans ce temps-là qui s'appelaient Jen and the Hologram, qui qui jouaient en finissant l'école. C'était comme des Barbie Rockers Punkettes.
Oui, Jem.
Jem and the Hologram.
J-E-M.
Oui.
Je m'en souviens de ça.
Ouais. Et leur groupe Nemesis, c'était les...
Épalais, je m'en souviens plus. Les Misfits, peut-être? Vous écoutez Le Lendemain de la Veille sur les ondes de CKUT 90,3. On vient d'écouter une pièce des Misfits et c'était la pièce Attitude, Marc-André.
Ouais.
Il faut avoir l'attitude pour écouter les Misfits.
Oui. Pas Full House, par exemple.
Non, Full House, c'est correct. Mais non, c'est pas le groupe Jem du dessin animé Jem. Pardon, les
Jem
Misfits.
C'est Jem and the Holograms.
C'est ça.
Et leur groupe ennemi, groupe rival, c'était il s'appelait Misfits ou The Misfits. J'avais trouvé ça bizarre même à l'époque.
Ouais. Alors que les Misfits existaient déjà.
Exactement. Donc, puis ils n'ont sûrement pas eu une scène pour ça, là, mais ça, c'est une autre histoire.
Ouais, non,
ça, mais Glenn Danzig, il est assez bien portant, star, là, il est correct. Mais le temps file. J'aimerais aimé ça parler des Misfits, mais quel bon groupe. J'ai des anecdotes à raconter sur les Misfits, mais ça ne sera pas aujourd'hui.
On fera un spécial Misfits.
Oh my God!
60 minutes.
60 minutes juste des Misfits.
Des anecdotes.
Des anecdotes. Glenn Danzig et ses biceps. Là, vite, dans Globe and Mail, au mois de décembre en 2021, pour le 18 décembre, il y a un titre vraiment cool. Ça s'appelait « Instrument Drive offers children in need a chance to play music ». Et c'est le conseiller municipal d'une ville en Colombie-Britannique, à Burnaby pour être plus précis, Mr. Joe Keatley, d'un groupe punk rock made in Canada,
okay.
Les D.O.A.
D.O.A. Oui, Dead on Arrival.
Bravo, un morceau de robot.
Yes!
Un autre morceau de robot.
Un autre.
Et c'est ça, on les a vus, D.O.A., t'en rappelles-tu, à 77, la dernière fois qu'on a vu ça?
Oui, au Parc Jean-Drapeau, il y a quelques années, jadis avant le COVID, on les avait vus, c'est un vieux groupe, hein?
Un vieux groupe, mais il y a tellement de bonne présence.
Oui, c'était un excellent show.
Power Trio Punk.
Sauf erreur, durant ce show-là, ils ont fait allusion que c'était leur comme 30e anniversaire d'existence, quelque chose comme ça?
Ça me surprend.
Ou 40e anniversaire.
À peu près, oui.
C'est un groupe qui a du vécu, quoi.
Avec autant d'albums. Et ce conseiller-là municipal, qui est le chanteur des DOA, petite anecdote, hey, j'ai tellement de choses à dire. Va falloir que je revienne là-dessus, mais...
Un autre spécial, DOA. Autre... Après le Misfit.
Avec No Means No et SNFU. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, un membre de ma famille était... il vit à Vancouver et je l'accompagnais. Il pouvait voter en Colombie-Britannique. Et moi, je savais que Joe se présentait pour être maire dans une municipalité et tout ça. Puis moi, j'ai accompagné mon cousin et je voulais, quand que je t'allais avec lui aux urnes, j'ai dit « Hey, je veux voter. Dites-moi, c'est quel parti que Joe… » Puis là, j'avais fait ce que je… Joe des DOA, là, c'est quoi son parti? Je veux voter pour lui.
Okay.
Vous savez pas c'est qui? Ça va être le prochain maire.
Ouais.
Puis là, c'était comme un running gag. Puis c'était comme, ils comprenaient pas, c'était des jeunes qui savaient fuck all. Ils disaient, this French frog from Québec.
C'est c'est qui ce groupe-là? Qu'est-ce qu'il raconte?
C'est qui ce gars-là? Et pour de vrai, il s'est présenté souvent. Okay. Et maintenant, il est élu conseiller. Et il y a un projet avec les pompiers de la municipalité. Ils ont amassé jusqu'à 72 000 $ d'instruments et de tout ce qui va alentour pour prêter des instruments comme un prêt dans des familles pour développer la musique.
Fait un peu comme ce qu'on voit dans les bibliothèques aussi. Oui, on a vu ça à Montréal récemment.
Très belle initiative de Mr. DOA. On va continuer dans du punk rock canadien qui vient de Montréal, qu'on a vu aussi souvent, le temps file. Cayman and the 45, je pense que c'est leur premier album. Ils en ont trois. Et je pense qu'on va y aller là-dessus. Je te laisse présenter la pièce qui est la première.
Donc, c'est le groupe Cayman and the 45s, un groupe ska de Montréal, et la pièce de Red Guy, Always Wins. Et je crois qu'on va se quitter là-dessus. On se dit tous à la semaine prochaine.
Lord, it must be right. The same damn thing almost every night. This here Peter's got a heavy price. When you're looking for advice, you're going left and he's pulling you right. The same thing almost every night. Oh, and the red guy always wins. You know the red guy, he always wins. You know the red guy always wins. I feel alive, I pick up the phone. I'm doing all right in the danger zone. When you're looking for advice, you're going left and he's pulling you right. You see that thing almost every night. Oh, when the red guy always wins. You know the red guy always wins. You know the red guy always wins. Yeah.
De rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
In the case of symptoms similar to those of COVID-19, such as fever, cough, sore throat, loss of taste, or smell, you should take a rapid home screening test. If you test positive, isolate yourself at home, and please follow the self-isolation instructions. If you don't have a rapid home screening test, please self-isolate for the recommended period. Visit quebec.ca/self-isolating for complete instructions on how to protect yourself and others. A message from the gouvernement du Québec.
En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
If you made a compensation claim for abuse at an Indian residential school, the records of your claim are secure. They will be destroyed in September 2027 unless you choose to keep them or share them.